Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 75. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de deux semaines, qu'on n'a pas eu de podcast. On était bien occupés par les temps qui courent. À l'heure où on se parle, le Cinémania est terminé. le prix du public, ce fut le film Violette. Un peu une surprise pour moi qui travaillais à Cinémania. J'avais pas eu beaucoup de déco de ce film-là. Je pensais que ça allait être plus un film comme Neuf mois ferme d'Albert Dupontel, qui avait eu vraiment des applaudissements, puis le monde trouvait ça très drôle comme film. Voilà, Violette, le prix du public qui succède l'an passé, je crois, c'était de Rouillédos.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
Ensuite, les RDM, c'est toujours en cours. Notre collègue Olivier Bouchard couvre le festival. Pour l'instant, il y a une critique en ligne de l'image manquante de Riti Pan, qui est dans la course pour le meilleur film aux Oscars et le meilleur film étranger aux prochains Oscars. Et il va nous fournir quelques autres textes. Mais toi, Pascal, tu as également vu un film au RDM.
Ben, je n'ai vu un qui en vaut deux, là. J'ai vu... Hey, en passant, ça se peut que je sois... J'ai la voix un peu tout croche. Je suis vraiment malade. Fait que ça se peut que je tousse comme un fumeur, là, ou je sais pas trop, là. Mais ça fait partie de la joie de l'automne / hiver. Non, mais regarde, écoute, j'ai vu Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Marcel Ophuls, moi, à toutes les fois que je dis Marcel Ophuls, j'ai tout le temps peur de me tromper avec Max Ophuls, qui est son père, en fait, qu'il faut savoir. Puis Marcel Ophuls, il a commencé en étant assistant réalisateur sur Lola Montes, le film de 1955 de son père.
Ouais.
Fait qu'il y a vraiment un lien.
C'est une bonne école, mettons, là.
Ouais, mais non, parce que après Marcel Ophuls, en fait, il était présent. Le bonhomme, il est très âgé. Je connais pas par cœur son année de naissance, mais il doit avoir au moins 85 ans passés. Il est venu présenter son film, il s'est déplacé pour l'occasion, il a fait des blagues sur le décalage horaire, un bonhomme très, très charismatique, évidemment. Hein. C'est un homme qui a vu l'histoire du cinéma, donc il rentre dans la pièce, il arrive, c'est à la Cinémathèque, donc il rentre, il parle, tout le monde est suspendu, on est suspendu à ses lèvres, bref. Et puis, il parlait très lentement, faisait des blagues, tout ça, il dit... j'espère que vous... Le film est long, il nous avertit d'entrée de jeu. J'espère que vous allez rester, puis si vous avez d'autres choses à faire, ben allez-vous-en, tu sais, il était vraiment relax. Puis finalement, il est revenu pour un Q&A qui était, c'était un beau question-réponse, mais j'y reviendrai, je vais parler un peu du film. Le chagrin à la pitié, c'est un documentaire massif de 1969 autour de l'occupation en France, en fond de l'occupation nazie en France. Le film prend un axe assez intéressant parce que on n'est pas à Paris ou on n'est pas dans des grandes villes, on est plutôt à Clermont-Ferrand. Donc, on prend vraiment un petit cas pour illustrer une grande histoire. Et à Clermont-Ferrand, c'est très drôle parce que... Ben, c'est drôle, c'est peut-être pas le bon adjectif, là. Mais c'est que, il y a eu l'occupation, mais c'était une occupation qui était plus passive et plus... convivial, c'est encore là, c'est peut-être pas le mot, mais...
Moins terrible.
Ouais, il y avait une coexistence entre les Allemands, puis vraiment peut-être plus jovial, en tout cas. Et donc là, les récits divergent, et on a vraiment un film avec une multiplicité de points de vue très intéressants. Donc dans le film, par exemple, il parle avec un capitaine allemand SS qui était sur place à Clermont-Ferrand, dans le fond, pour superviser les opérations nazies, dans le fond, carrément. On prend aussi des gens de la résistance, on prend des bourgeois qui se sont pas mêlés à l'action, il parle avec des prisonniers de guerre, il parle avec... Il y a vraiment une panoplie de gens de points de vue, puis ça en fait un film extrêmement riche. Parce que c'est un film très humain. Ça semble très austère, hein? Un film de 4h10, noir et blanc, Deuxième Guerre, on en a vu un puis un autre. Mais ça m'a au fait assez surpris à quel point le film, on embarque. Puis, effectivement, il y a une intermission, donc c'est vraiment en deux parties. Le film qui, à la base, était censé être fait en 2x2 heures pour la télé. Or, le film a été banni. En fait, il n'y a pas son diffuseur n'a pas voulu le présenter.
Oui, vas-y, excuse.
Ouais, non, vas-y, pose la question.
J'allais dire, est-ce que tu penses que c'est parce que le ton, comme tu sembles le décrire, un peu plus jovial, ne convient pas nécessairement à cet événement-là?
Ben, okay, attends un peu, ouais. Faut pas... jovial, comme... Je voulais pas dire ça nécessairement, parce que c'est pas quand même le ton global. Je pense que ce qui fait que le film a été banni, c'est vraiment parce que c'est un miroir très difficile à prendre pour les Français qui n'ont pas parlé de leur passé plus trouble. Parce qu'en fait, ce qu'ils critiquent dans le film, c'est que la France, en fait, a signé l'armistice, a rendu les armes sans offrir de réelle résistance. Et par la suite, le gouvernement de Pétain à Vichy a collaboré avec les Allemands aussi. T'sais. C'était le seul pays conquis des alliés à avoir collaboré de façon aussi proche avec les Allemands. Donc, le film en fait un cas pour vraiment montrer que, crime, sous occupation, il y a certaines personnes qui se sont peut-être enrichies à travers tout ça, au détriment du peuple, au détriment des valeurs du peuple. Donc, c'est un miroir très difficile à prendre, un portrait très noir, en fait, d'une période très, très sombre, justement, de la France de ces années-là. Et justement, ça n'a pas plu, hein, ça n'a pas plu, donc le film n'a pas été présenté à la télévision comme convenu. Par contre, l'aura mystérieuse du film banni, ça a joué en sa faveur ultimement, parce que ses amis du Cahier du cinéma l'ont poussé pour qu'il soit en salle, et puis ça a été quand même un grand succès, ben, ça a fait un certain succès en salle à l'époque. Et par la suite, quand il a été diffusé à la télévision, il a été vu par 25 millions de Français.
Oh. C'est quasiment le tiers. Ben, c'est plus que le tiers. Là.
C'est ça, c'est genre énorme. Donc, voilà un peu pour Le Chagrin et la Pitié. Avez-vous des interactions, les amis, avec moi, pour un film aussi colossal que ça ben, plus
C'est dur sans l'avoir vu, en fait. Comment tu le comparais peut-être à des films comme Shoah, qu'on n'a toujours pas vu. Hein? Moi, j'ai vu deux heures dans mon cours, mais j'ai pas vu au complet.
J'ai pas vu Shoah, mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est humain. Puis que, en fait, des fois, c'est drôle parce que le point de vue est assez transparent quand même. Bon, effectivement, à la fin, ça se dessine. Mais au début, on prend le témoignage de l'un, de l'autre, on en fait une belle fresque. Puis sans en cachant quand même beaucoup l'opinion de Marcel Ophuls, qui est quand même présent dans le film. Hein. C'est lui qui pose les questions. On le voit très, très, très rarement, mais il est toujours hors champ, il interagit avec les gens. Donc, c'est pas des entrevues à proprement parler, c'est vraiment plus des discussions. Puis du fait que c'est la discussion, ben, il y a de l'humour, puis il en a pas peur. T'sais, c'est pas parce que c'est un film sur l'occupation, sur la Deuxième Guerre, sur les crimes de guerre, qu'il faut en faire un film drabe pour autant. Puis en fait, je pense que ça permet d'apprécier la pilule. Puis ce que ça fait absolument, ce film-là, c'est que ça nous intéresse. Je pense que le film se fait pas non plus un documentaire exhaustif sur, évidemment, tout ce qui s'est passé durant l'occupation. Mais on a des points de vue, on a, à travers les paroles des gens, on se replonge dans une certaine époque, dans un certain contexte. Puis ça fait que t'arrives chez toi, puis t'as envie d'aller sur Wikipédia, puis de lire, puis d'approfondir sur le sujet. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Fait que ne serait-ce que pour ça, ça ouvre un dialogue, je pense. Fait que, non, j'ai vraiment, mon Dieu, c'est plate, parce que j'ai rien à dire de négatif contre le film. Là.
C'est ben
vraiment...
non, mais c'est, ben tant mieux.
Mais c'est vraiment un film à voir, vraiment, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est un des documentaires essentiels sur la Deuxième Guerre, de ceux que j'ai vus. Donc, comment je le compare? Ben, je le compare avec les plus grands, certainement, certainement.
D'ailleurs, un film que j'ai vu dans le cours, dans mon cours de documentaire à l'Université de Montréal, qui est très intéressant sur la question, qui s'appelle Notre Nazi de Robert Kramer. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, les gars.
Non,
moi rien du tout.
Dans le fond, c'est un projet assez spécial. Bon, c'est deux cinéastes, je m'en rappelle plus du nom de l'autre, qui décident de faire un film de fiction et Robert Kramer fait un peu comme le making-of de ce film-là. Mm-hmm. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et la particularité de ce film-là, en fait, c'est que le personnage principal est interprété par un nazi qu'ils sont allés chercher.
Ah ouais?
Un officier allemand. Et dans le fond, il va comme... Le film de fiction, c'est un peu bizarre. C'est à propos de lui, dans le fond, qui torture des gens puis qui éventuellement se suicide. Puis, tu sais, il y a vraiment un côté malsain dans le film de fiction déjà à la base. Mm-hmm. Et dans le making-of, en fait, c'est que bon, il va documenter, c'est ça, le tournage en tant que tel, mais entre les prises, il va poser des questions, en fait, Robert Kramer, à cet acteur-là. J'ai oublié le nom, malheureusement. Ben, c'est pas un acteur, finalement, c'est un nom professionnel, là. Mais qui décide quand même de participer au tournage et il accepte aussi de se prêter au jeu du documentaire et de se livrer un peu entre les prises. Évidemment, c'est très compliqué, c'est sur des semaines et ça prend du temps avant qu'il se délie un peu, qu'il ose parler de tout ça et c'est par bribes seulement.
De son idéologie, tu parles?
Ben, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il dit, exactement tout ça. Et le documentaire est très cruel aussi. Il y a une séquence à un moment donné où Kramer, un peu comme Landman dans Showa, tu sais, qui va vraiment pousser les intervenants à parler, ben Kramer en rajoute, puis il met dans ses derniers retranchements, si bien qu'à un certain moment, il veut quitter le plateau de tournage.
OK.
Mais là, toute l'équipe du documentaire et du film se tiennent les mains autour de lui. Il a comme 70 ans, là. Il n'est pas dangereux, là, entre guillemets. Mais pour l'empêcher de partir, et on filme ça en temps réel. Et lui, là, il est vraiment pas à l'aise, il veut partir, il a chaud, il a les spots, il sue. Mais eux refusent qu'il parte parce qu'il dit non, tu as signé le contrat, tu dois nous livrer ta parole, tu peux pas fuir la vérité, espèce de lâche, etc. Et c'est vrai, là, c'est en temps réel. Puis honnêtement, là, ça fesse comme film. Puis là, tu dis, bon, évidemment, le gars a fait des choses atroces, et puis, tu sais. Mais le documentariste, est-ce que c'est pas non plus un peu de l'exploitation
Ben c'est ça. C'est ça, ça sonne un
d'un homme
peu.
aussi, qui a fait, tu sais, je veux dire, il a été en prison, puis il a été relâché, puis je veux dire, il a eu déjà son procès de société. Mais en tout cas, des questions délicates et vraiment un documentaire, là, coup de poing, là. Ouais.
Ouais, mais ouais, ben non, j'imagine. Par contre, ce qui est vraiment intéressant à ce sujet-là, avec le chagrin et la pitié, c'est que, bon, oui, les Allemands, c'est les méchants, là, tu sais, mais on s'y attend pas autant, peut-être, que les coups durs qui sont menés à l'interne, à travers par le gouvernement de Vichy ou tout ça, tu sais, puis les informateurs ou les gens qui dénonçaient les gens de la résistance, tu sais, j'ai l'impression que le film, les méchants, parce que évidemment les nazis, c'est comme le méchant des méchants, tu sais, ça chapeaute un peu tout, fait qu'on s'y attarde plus ou moins, puis on est plus en train de regarder c'est qui nos racailles à nous, tu sais, les Français. Regardons-nous, puis c'est qui nos racailles, c'est qui est. Fait que ça, j'ai vraiment aimé une certaine. Je trouve que c'est une lumière intéressante parce qu'effectivement, les nazis, dans un film sérieux, hein, dans un film comique, à l'Inglourious Basterds, Hitler, c'est toujours le fun, il peut se faire gonner, puis on aime ça, tu sais,
Ouais.
c'est pas un problème. Mais tu sais, dans un film qui se veut sérieux, il me semble que c'est le fun quand ça peut aller un peu au-delà de regarder c'est qui autour, c'est quoi la
Ouais.
périphérie, c'est quoi qui a été
Aller
aussi
vers
pourri.
l'autocritique.
Ouais, aller vers l'autocritique même, tu sais, il y a personne qui est exempt de tout de tout reproche. Fait que, juste un petit mot sur le Q&A. Donc, à la fin du film, il était quand même déjà rendu 11h30 à peu près. Puis là, pour un film, il commence à 6h30, hein, fait que, t'sais, bon. Puis Marcel Hoefl se présente, répond à, bon, c'est une question-réponse bon, très intéressant, mais le ton a changé lorsqu'il a dit que, il dit, bon, à toutes les fois que je présente le film, et puis là, sa voix casse, et il dit, ce sera probablement la dernière. Donc, il dit ça comme ça, en voulant dire, je sais pas c'est quoi son état de santé, seulement lui, peut-être, ou les gens proches de lui le savent, mais en tout cas, ça a comme refroidi l'audience, puis je pense qu'il y a vraiment un énorme respect qui a été témoigné. Il y a très peu de gens qui sont partis aussi dans le film. Très peu de gens qui ont quitté avant le Q&A aussi, malgré l'heure tardive. Donc, je trouvais que c'était vraiment juste un bel événement. T'sais. Je pense que ça arrive à Montréal. Il me semble, si on peut, me semble ça vaut la peine de se déplacer, d'aller voir ça. Puis moi, j'en suis ressorti avec la tête pleine. C'était vraiment un grand film.
Bon, mais c'est formidable vraiment que tu aies pu vivre ça.
Ouais.
C'est sûrement c'est ça, la dernière chance qu'on peut le voir à Montréal. Donc, les RIDM qui se continuent jusqu'au 23, pardon, novembre. Ou 24, 24 novembre. 24 novembre, je
Puis est-ce qu'il y en a tous les jours de ces films? Parce que je pense que c'est comme la rétrospective, là.
pense. Ouais, je sais pas exactement ce que tu sais, Pascal.
Peut-être pas à chaque jour. Je sais qu'il y a Hôtel Terminus, son film de 88, qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire, qui a été présenté. Mais je pourrais me tromper, sérieux. Mais je pense que les films jouent tous deux fois. Ça, je voulais le dire. Parce que, évidemment, Le Chagrin et la Pitié, puis Hôtel Terminus, c'est vraiment, c'est plus connu. Puis à un moment donné, dans le Q&A, comme ça, il parle, parce que c'est souvent très axé sur la Deuxième Guerre. Puis à un moment donné, il parle d'un de ses films, il parle d'Hôtel Terminus, puis il dit, mais il en parle avec une grande modestie, puis il dit, mais de toute façon, Memory of Justice est bien meilleur, on va se le dire. Puis ça, comme tout le monde dans l'audience s'est regardé en voulant dire, parce que c'est un de ses films très méconnus. Puis j'ai regardé, puis c'est un documentaire, encore une fois, de 4h30, Memories of Justice, qui est fait dans les années 70. Je pense qu'il est présenté, mais je pourrais me tromper aussi dans le cadre du RIDM. mais ça a l'air vraiment malade. Puis c'est autour des procès de Nuremberg, donc tous les procès des nazis. Puis il a fait des entrevues avec des gens qui s'en sont tirés, des gens qui sont allés chercher en prison. Donc il a vraiment fait un grand documentaire épique sur la justice post-Deuxième Guerre mondiale. Puis il semblait en parler avec une telle fierté qu'on... En tout cas, je pense qu'à ses yeux, c'était probablement le meilleur documentaire qu'il a fait, qu'il a réalisé à ses propres yeux. Fait que peut-être que je souligne celui-là, si jamais il joue puis il n'a pas encore joué, puis ça vous tente de vous taper un documentaire de 4h30, ça peut être vraiment payant.
Donc on va se renseigner au rdm.qc.ca. Ouais.
Mais ça vaut la peine, puis je sais qu'il est là pour la plupart des, ou presque tous, en fait, toutes les Q&A. Donc il est vraiment à Montréal là, pour encore quelques temps.
Sinon, le 14 novembre se finissait sur le site web mubi.com le festival Dialogues of Culture. J'avais mis le lien sur la page Facebook qui présentait donc plusieurs longs métrages de différents pays. Cette fois-ci, cette semaine, c'est encore une fois sur mubi.com qui accumule les bonnes initiatives de ce genre en collaboration avec le 33e Munich International Festival of Film Schools qui a lieu en ce moment. Donc, le meilleur un peu des films étudiants dans le monde. Mm-hmm. 8 courts-métrages en ligne, gratuits, accessibles. J'ai mis le lien sur la page Facebook, dont le film Noah, en fait, le film canadien qui a remporté le prix du meilleur court au TIFF.
Ouais, l'avez-vous vu, celui-là?
Ben, c'est ça, là, je viens de l'écouter, en fait, hier.
C'est quoi, t'aurais aimé?
Non, j'ai aucune idée, c'est quoi?
C'est cool, en fait, c'est un film qui a été fait sans caméra, si on veut. Il a été fait juste avec du screen capture, du vidéo capture d'écran d'ordinateur, hein.
Ah, oui, j'ai entendu parler de ça.
Ouais, c'est ça, puis c'était au TIFF, ça avait fait beaucoup jaser à Toronto en septembre. Mais, il est sur Mubi.
Ouais, puis c'est ça, puis des films de France, 8 courts-métrages, en fait, là, c'est le seul que j'ai vu. Mais c'est le fun, Noah, parce que au-delà du thème et du film en tant que tel, qui est comme une espèce de portrait de la génération d'aujourd'hui, qui est multitask, qui est tout le temps sur l'ordi, etc., des relations... qui sont
très fragmentés, là.
Ouais, exactement. Mais tout le travail de la caméra aussi est vraiment intéressant. Puis aussi, comme pendant le film, c'est pas juste l'écran en plan large tout le long du film. Il y a vraiment des zooms et un travail de caméra, entre guillemets, caméra virtuelle, peu importe. Mais du mouvement. Et c'est comme si un peu on simule le regard de quelqu'un, tu sais, qui va vraiment de gauche à droite, qui va là, qui clique, qui passe sa souris, pas sûr s'il va, genre, publier ce statut-là. Ensuite, il fait alt tab, il va chercher son iTunes, mettre une tune qui fit avec son mood. Donc, il y a vraiment un travail intéressant, à la fois au niveau formel et au niveau thématique.
Mais c'est poussé tellement loin que j'ai l'impression que c'est le seul et unique film qui va pouvoir le faire de cette façon-là. Ce que je veux dire, c'est me semble, je vois, ça peut être dans un ensemble, dans un autre projet, il y a peut-être moyen d'intégrer des éléments de ce genre-là. Mais un film comme ça, qui utilise un peu tout l'ordinateur, puis tout ce qui est à la portée de la main, puis comment qu'on est un peu schizophrène, là, t'sais, on est là, on fait quelque chose, on lit quelque chose, on écoute de la musique, on fait tout en même temps. Puis le film, ça le rend super bien.
Ben, je sais que le documentaire Catfish a été beaucoup comparé. En fait, Noah a été comparé à Catfish. Je l'ai toujours pas vu, Catfish.
Mais Catfish, c'est pas la même chose, par exemple. Non, okay. On est beaucoup en dehors de l'ordinateur aussi, en fait. C'est beaucoup de savoir, en fait, qui est derrière l'ordinateur, mais on suit une gang de gars là-dedans. Donc, c'est ça, c'est pas juste figé sur l'écran. J'ai pas vu, en fait, Noah, fait que je peux pas vraiment comparer, là.
Non, mais Noah, c'est vraiment dans l'ordi.
Ouais, c'est ça.
Ou sinon, il y a aussi VHS. Je reviens à cette série de films-là. Mais le premier VHS, c'est un segment qui est entièrement sur Skype. Donc, ça prenait un peu le même principe de point de vue subjectif par rapport à la technologie. Donc, VHS, là, honnêtement, c'est une série sous-estimée, je trouve. Puis, c'est sûr que par le principe même d'anthologie, il y a des cours qui sont moins bons que d'autres. Là. Mais moi, là, les deux VHS, j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'ai hâte au prochain.
C'est une franchise. Il y en a un autre prévu qui va s'en venir bientôt.
J'imagine. Les deux premiers ont quand même eu un gros succès. Il y a une série aussi un peu concurrente, là, ABC's of Death. Ouais, que ça, je l'ai vraiment pas aimé, le premier.
C'est quoi, ça?
C'est 26 courts-métrages. Chaque film, dans le fond, il y a un titre qui est comme un peu un espèce de punch, parce que là, le film joue. Puis là, finalement, à la fin, c'est, mettons, O is for orgasm, ou bien F is for fuck, ou tu sais, des trucs de même. Fait que là, comme le film joue, puis à la fin, t'as le titre qui apparaît, puis c'est comme, ah, tu sais, souvent c'est un punch un peu, ou...
Ils font le tour des lettres de l'alphabet, puis il y a aussi, en fait, dans les deux éditions, le deuxième qui s'en vient, ils ont ouvert un concours sur Internet où les gens pouvaient soumettre, dans le fond, leur film sur une lettre, comme l'année passée c'était le T, cette année c'est le M. Fait que les gens soumettent un film qui commence par M, puis qui pourrait faire partie, en fait, de l'anthologie. Donc vraiment, ils ouvrent ça comme au cinéastes, ben, je dirais pas amateurs, là, mais aux cinéastes qui veulent embarquer là-dedans, puis ils sélectionnent le meilleur. Je pense que des votes sur Internet, là.
Ah, oh, c'est cool ça, par exemple.
Mais le problème, en fait, avec cette série-là, je trouve, c'est que, honnêtement, le premier ABCs of Death, il y a comme deux, trois cours qui valent la peine, selon moi. La grande majorité, c'est comme. Parce que c'est des films de 4 minutes, finalement. Tu sais, vu que t'en as tellement. Puis en 4 minutes, tu peux pas faire grand-chose nécessairement.
Ben, stylistiquement, tu peux faire beaucoup, mais avec des personnages un peu moins, peut-être, là.
Ben, peut-être aussi qu'ils ont pas assez pris le temps, la production, d'épauler les réalisateurs, de vraiment, tu sais, parce que, mettons, un film comme Paris, je t'aime, ce qui était, bon, un peu moins de segments, ben, beaucoup moins de segments, mais c'était quand même assez court, mais j'ai vraiment l'impression que dans Paris, je t'aime, il y avait une unité, et aussi...
Ouais, puis t'as-tu vu la brochette de réalisateurs de Paris, je t'aime, la brochette
Ouais,
de
c'est ça.
réalisateurs puis d'acteurs, là. Mais
C'est
tu sais,
ça.
peut-être qu'il y a quelques réalisateurs, moi je l'ai pas vu, mais il y a quelques réalisateurs, par exemple, au travers, dont par exemple le réalisateur de Hobo with a Shotgun, c'est du monde qui sont dans
Ah,
l'horreur
ok.
depuis pas longtemps, mais qui commencent justement à percer, à se faire un nom, là.
Ouais.
Fait que je sais qu'il y en a quelques-uns, mais tu sais, c'est vraiment pas comme. En tout cas, Paris, je t'aime, je trouve que c'est comme ça. Ça fait juste pas de sens que ce projet-là se soit fait, là. C'est comme. Les noms sont un après l'autre, font pas de sens, là.
Ouais.
Et pourtant, je veux dire, ils ont refait l'expérience avec New York, je t'aime, que j'ai pas vu, mais que tout le monde dit que c'est vraiment nul. Et pour, tu sais, il y
Il
avait
y a
des.
Tokyo, Carax, entre autres, qui est dans Tokyo, Bong Joon-ho.
Ouais,
Ouais.
mais ça, c'est deux autres concepts aussi, comme New York, je t'aime. Je pense qu'il y avait très peu de films, parce que Paris, je t'aime, il y en avait vraiment beaucoup. New
Ouais.
York, je t'aime, je pense qu'il y en a beaucoup moins, puis je pense qu'il y en a comme... Il y en a quoi? Il y en a 10 ans environ?
Puis dans Tokyo, il y en a
Mais
juste trois, ouais.
Tokyo, il y en a juste 3, c'est ça.
Ouais,
C'est des
c'est ça.
vraiment plus longs films, là.
En tout cas, bref, tout ça pour dire que dans les films d'anthologie, allez vers VHS plutôt que vers ABCs of Death.
C'est drôle, on est parti de Noah puis on s'est ramassé à ABC of Death.
Ou aller vers Creepshow, là, les deux Creepshow classiques, là.
Ça non
Le
plus, je les
premier
ai pas
par
vus, ça.
Romero, là, George Romero, avait écrit par Stephen King, il vaut vraiment la peine, là. Il y a vraiment une touche BD tout le long, mais c'est une anthologie, mais c'est Romero qui les a tous réalisés.
C'est quelle année, ça, les Creepshows?
C'est pas comme début 80.
C'est 82, ouais, exactement.
Sinon, Rémi, t'as vu un film que ça me surprend en fait que t'avais pas vu. Je sais
Ben
pas
oui,
pourquoi.
là c'est drôle, là. On part dans des gros films lourds, des documentaires de 4 heures, puis on s'en va vers autre chose, là.
Ouais,
Mais en fait, moi, je suis un gros, gros fan de Spielberg. Je suis quand même très vendu au cinéma de Spielberg. C'est un peu drôle à dire, là, être fan de Spielberg, parce que, bon, c'est du gros cinéma bonbon, blockbuster, storytelling à côté dans le tapis, là. Mais moi, je
Non,
pense que
non, mais je...
ça représente beaucoup pour moi. T'sais, ça a été beaucoup grosses symboliques dans mon enfance. Puis je trouve que, je sais pas, là, je trouve qu'il y a tout le temps des belles histoires qui accrochent. Puis il y en a une couple qui m'ont échappé, qui m'échappent encore, en fait. Puis il y en avait un que j'ai décidé d'écouter hier. Puis c'est AI, Artificial Intelligence, film de 2001.
Est-ce que tu connais un peu le contexte de production du film?
Ben, oui, c'est ça. Ben, j'ai lu autour du film aussi. Puis en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était un projet de Stanley Kubrick de base qui
Ben
devait faire depuis. Ça y tournait dans la tête depuis le début des années 80. C'était basé sur une short story. Kubrick, en fait, voulait attendre que la technologie soit rendue assez loin pour pouvoir vraiment faire tout ce qu'il voulait. C'est drôle parce que j'ai vraiment de la misère à m'imaginer ce film-là dans les mains de Kubrick, là. Ça a vraiment l'air d'un film de Spielberg, puis ça a l'air d'être vraiment un film qui a été écrit pour lui. Ça a été écrit par lui, en fait, même au bout du compte, là.
Ben, je pense qu'adapter, tu sais, je pense que Kubrick avait un traitement
Oui, il y avait un
pour.
traitement d'une soixantaine de pages, puis ce qui s'est passé, c'est qu'après Jurassic Park, là, il s'est rendu compte que peut-être qu'il pouvait faire le film qu'il voulait en prenant le personnage principal, puis en le faisant, dans le fond, presque en 3D tout le long. Il voulait vraiment que le petit garçon soit animé en 3D. Spielberg, c'est pas ça du tout qu'il a fait. Il a pris le petit gars du sixième sens. Mais c'est ça, Kubrick, il voulait être rendu là. Puis à un certain point, il s'est rendu compte que l'histoire était peut-être mieux dans les mains de Spielberg, parce que c'était vraiment le genre d'histoire que Spielberg fait raconter. Là. Ça, il y a vraiment des soupçons de E.T., des soupçons de plusieurs films qu'il a déjà fait, de Close Encounters. Puis... Mm-hmm. Dans le fond, il y a eu vraiment, tu sais, Spielberg disait « Ah, mais non, tu devrais le faire. » Puis Kubrick, « Non, toi, tu devrais le faire. » Fait que là, ils se sont comme passé le projet de main en main. Puis après le décès de Kubrick, Spielberg a décidé de mettre l'avant le projet. Puis en s'inspirant, dans le fond, des dessins du traitement original que Kubrick avait fait, il a développé son propre scénario. C'était son premier crédit d'écriture depuis Poltergeist. Donc, c'était vraiment un... Ça faisait longtemps qu'il avait écrit, tu sais, Spielberg écrit pas beaucoup, ça faisait vraiment longtemps qu'il avait écrit, puis là, ben, il a décidé vraiment de l'écrire en hommage à Kubrick.
Et d'ailleurs, bon, tu sembles dire que c'est un projet de Spielberg, mais est-ce que tu trouves quand même que le film détonne dans sa filmographie? Comment tu le situes par rapport à sa filmographie?
Ben, je trouve que ça fait, comme je te dis, ça fait très Spielberg, puis tantôt, en fait, j'étais même pas sûr d'en parler quand je vous ai dit que je l'avais vu, parce que c'est pas son meilleur, il est un peu frais dans ma mémoire là, pour vraiment vous dire comment il marque ce film-là, mais disons que c'était moins pire que tout ce que je me suis fait dire dessus. Je m'étais fait parler du côté très mélancolique puis cheesy du film, puis finalement ça a quand même marché avec moi. Je pensais avoir de la misère à y croire au début, parce qu'en gros ça raconte, c'est l'histoire d'un, j'ai pas fait le synopsis, mais pour ceux qui l'ont pas vu, 2001, en tout cas, je suis désolé, je suis vraiment en retard dans dans le visionnement. Mais c'est l'histoire d'un petit robot qui s'est fait créer pour avoir des émotions humaines, puis aimer, en fait. Donc, c'était vraiment une expérience que des scientifiques ont faite. Puis, il y a une famille qui pense qu'ils vont perdre leur fils. Donc, ils amènent ce petit robot-là dans leur maison pour comme prendre la place de leur fils, puis avoir de l'amour d'un enfant. Puis finalement, de fil en aiguille, le fils revient à la maison, puis le robot prend un peu le bord, puis bon, il se fait... Il se fait tasser. Je sais pas si je dois le dire, puis si je dois comme le raconter tant que ça, mais il se fait mettre de côté, puis c'est un peu là qu'il est en cavale. Il y en a qui qualifient ça un peu aussi comme le début d'une trilogie comme pour Spielberg, parce qu'il a fait comme trois films de suite où ça parlait d'un fugitif. Donc il y avait lui, il y avait Minority Report, puis il avait fait après Catch Me If You Can.
Ouais.
Donc ça serait comme le début d'une genre de trilogie. Mais reste que le film, dans sa cheesiness, moi je trouvais que ça a marché dans l'univers qu'il a créé. Puis vraiment, le robot au début est un peu creepy, mais dès que l'émotion a kick, je pense qu'il réussit quand même à aller chercher une belle note, puis à nous faire croire en ce petit garçon robot-là.
Comment tu le trouves, le petit, toi, dans ce film-là? Comment tu l'as trouvé? C'est quoi son nom déjà à lui?
Ouais, exactement. Il était bon, pour vrai, c'est ça. Au début, il était vraiment creepy quand il jouait le robot, parce qu'il est comme... tu sais, avant qu'il trouve l'amour comme tel, là, parce qu'il y a comme un moment où il fait le switch, puis là, il commence à aimer sa mère adoptive. Il est vraiment fucked up, là, puis il est juste très carré, puis il est très, très robotique, là, puis... J'ai trouvé que ça a marché, puis après ça, quand l'émotion arrive, il y a vraiment, ça détonne assez avec la première partie que je pense que tu peux commencer à y croire. Donc je pense que ça va, puis en plus il est avec Jude Law aussi, qui est un personnage assez éclaté là. Il fait un genre de robot prostitué mâle, puis il se lie d'amitié avec le petit garçon, puis il essaie dans le fond de fuir les deux ensemble. Puis Jude Law est très bon aussi, très convaincant dans son jeu robotique, là. Mais c'est drôle à dire, tu sais, qualifier un jeu de... Tu sais, es-tu bon pour jouer un robot, là? Mais en tout cas, tu y crois, là.
C'est bizarre que tu me dis que t'as entendu beaucoup de négatifs, ce film-là. Dans ma tête, c'était un des films les plus appréciés de Spielberg.
Ben, il y a comme des écoles, on dirait. T'sais, d'un côté, t'as Jonathan Rosenbaum qui le met dans ses 100 films les meilleurs de tous les temps, ou des affaires comme ça, tu sais. Puis d'un autre côté, t'as un grand public qui a vraiment pas embarqué, puis... moi, je vais être franc, moi j'ai eu beaucoup de misère avec le film. Moi je trouve que chez Spielberg, une de ses faiblesses, qui passe dans beaucoup de films, mais que dans ce film-là, c'est ça moi qui le fait couler beaucoup à mes yeux aussi. Disons, c'est le premier domino de tous les dominos, là. Mais c'est comment Spielberg représente les enfants. Tu sais, les enfants sont cute, puis sont... Mais tu sais, dans E.T., c'est le fun, parce que je trouvais que l'atmosphère est vraiment... se prête beaucoup à ça. Dans, mettons, Jurassic Park, ben, c'est des personnages secondaires. Fait que c'est quasiment des comic relief, t'sais, les enfants. T'sais, ils sont qualifiés vraiment de façon sommaire.
Ben, c'est un prétexte pour faire avancer l'histoire, quand même, dans Jurassic Park, là.
Oh, non,
parce
non, non,
c'est ça. C'est un peu la drive de Sam Neill, puis... Ben, en tout cas,
ouais, excusez-moi. Ouais, non, t'as raison, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas porté sur les épaules des deux enfants. Il y a quand même toute la périphérie qui est super forte. Mais je trouve que quand c'est un enfant, son personnage principal, il y a quelque chose qui me gosse, comme Empire of the Sun, puis AI, là, j'ai eu de la misère. Puis pourtant, Empire of the Sun, il y a tellement de qualité, ce film-là. Là. Mais globalement, puis il est pas mauvais, Christian Bale, en soi. Je trouve que c'est la façon comment que le jeune est cadré, est mis en scène. Il est comme cute, puis il est comme intrépide. Puis encore une fois, en comédie, je pense que ça marche vraiment mieux, en fait. T'sais, comme les Goonies, c'est drôle, c'est le fun. Ou tu sais... En comédie, ça passe ce genre de caractérisation de l'enfant-là, mais je trouvais que dans AI, ben, oh, j'ai de la misère avec le petit gars, là, mais... Mmh. Puis on dit, mais moi, par contre, c'est que j'ai tellement pas... Bon, je l'ai comme condamné trop tôt. Fait que tu sais, quand tu condamnes un film tôt, après ça, c'est 2h30 qui restent à ruminer dans ta tête puis à trouver les défauts, là.
Oui, il est très long, le film, là. Ça, c'est quelque chose aussi, là. Ouais. Puis la fin s'étire et s'étire et s'étire, là.
Moi, j'ai vraiment adoré la finale, d'ailleurs, qui est un peu controversée, là. Il y en a qui la détestent.
Ben, ultra cheesy, puis avec comme un 200 ans plus tard, là. C'est vraiment... Ouais. On est dans... C'est 200 ans plus tard, mais pour la dernière demi-heure, là. Fait que c'est pas comme un juste un petit clin d'œil à la fin, là. C'est vraiment un chunk, là, du film qui est la finale. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était pas si mal, mais c'est que ça s'étire, là. Ça s'étire un peu, là. L'aventure est finie, rendue là, tu sais.
Puis toi, Paul, comment tu le...
Ben, honnêtement, ça fait des années que j'ai pas revu, là. Donc, mes souvenirs sont pas nécessairement frais. Mais honnêtement, moi, je me rappelle que, tu sais... Aller Joel Osment à l'époque, là, comme enchaîner le sixième sens, puis AI, là, c'est toute une performance. Puis d'ailleurs, on n'en a plus même parlé. Je sais qu'il a joué dans d'autres films depuis, mais c'est quand même, là, c'est un tour de force, là, sa performance, selon moi. Et puis le film, j'avais bien aimé aussi. Tu sais, son diptyque de science-fiction avec Minority Report, c'est selon moi deux de ses meilleurs films. Je sais pas, il y a quelque chose dans le monde qui est créé. Puis aussi, je trouve que. Vous arrêtez pas de parler de comme cheesiness puis de positivisme, mais il me semble que de ce que je me souviens, AI, c'était comme un de ses films les plus cyniques. Peut-être que je m'en rappelle mal.
Ben, mais, globalement, oui, mais c'est des scènes précises dans AI, moi, qui me faisaient grincer les dents. Je sais pas. Encore une fois, moi, c'est pas super frais dans ma tête. Rémi va pouvoir le dire mieux que moi, mais il y a vraiment, globalement, c'est pas ça qui ressort. Mais il y a des scènes précises qui sont tellement too much à ce niveau-là que je trouve que ça. Ça déteint sur tout le reste du film. Parce que dans le fond, c'est vrai que c'est pas. Le film au complet, il est pas juste cheesy puis heureux puis.
Non, puis ça reste aussi dans la lignée Spielberg avec des grosses scènes d'action qui ont pas de bon sens, la direction photo qui est top. C'est un gros film, la grosse production value. Tu vois les sets qui sont. C'est vraiment hallucinant de regarder le film. Là. C'est vraiment un gros spectacle. Mais tu sais, il y a comme une espèce de balance en fait qui est faite. Hein, parce que t'sais, Spielberg est très dans l'émotion soulignée au gros violon de John Williams. Mm-hmm. Puis t'as t'sais, Stanley Kubrick qui fait des trucs vraiment, t'sais, parfois vraiment froides. Là,
glacial,
très glacial. Je pense qu'ils ont essayé de vraiment trouver un milieu là-dedans. Parce que Spielberg a quand même suivi la lignée. Il y a vraiment sur des détails en plus que je voyais, j'ai lu. Puis même John Williams, dans ses thèmes, il a essayé de s'inspirer de la musique que Kubrick voulait mettre. Kubrick voulait mettre du classique, bien sûr. Puis Williams est allé chercher des thèmes, tu sais, vraiment toute une volonté de garder quand même l'idée que Kubrick avait. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une balance qui s'est faite, puis ça fait que des fois, justement, les émotions sont peut-être un peu plaquées, puis sont peut-être un peu frettes, disons.
Mais c'est quand même drôle de constater qu'à l'époque, tu sais, en 99, Eyes Wide Shut et AI, deux ans plus tard, deux films qui ont vraiment été rejetés à leur sortie, qui sont peut-être réévalué avec le temps. Peut-être que Eyes Wide Shut est comme encore plus... mieux
considéré. Eyes Wide Shut a vraiment fait un bond d'estime. Ouais, il a fait un bond d'estime. Ouais. J'ai l'impression... T'sais, il y avait des critiques qui faisaient pas de sens. Le film a été critiqué parce que New York était stylisé ou des affaires comme ça. T'sais, t'es comme... À un moment donné, faut accepter aussi la vision de l'auteur, là, un petit peu. Là. Parce que j'avais lu des critiques d'époque d'Eyes Wide Shut qui faisaient comme aucun sens. Mais bon, ça, c'est le... Hey, c'est la rançon d'un grand film. Hein? Ouais, vas-y.
Peux-tu me confesser? J'ai jamais vu Ice White Shop.
Oh, ouais, quand même. C'est good one.
C'est son prochain devoir, Rémi.
Ouais, c'est bon. Je vais respecter ça.
Bon.
Hey, mais AI, là, un long film, là, un peu d'aventure, là, ça me fait penser à un film que j'ai vu cette semaine. Là.
Ah ouais, ça serait quoi, Pascal Plante?
J'ai vu 12 Years a Slave de Steve McQueen. Mais
l'un des films les plus attendus de l'année.
Ouais, puis
bon. Favori dans la course aux Oscars.
Oui, favori dans la course aux Oscars. Le film qui a gagné à Toronto, on parle d'un, il est comme à 97% sur Rotten Tomatoes puis sur Metacritic. On parle vraiment d'un des films les mieux critiqués de l'année, avec peut-être le film des Coen puis La vie d'Adèle. Tu sais, fait, c'est un gros morceau. Moi, je dois avouer que d'entrée de jeu, Hunger, j'avais pas accroché tant que ça.
Mm-hmm.
Puis Shame, j'avais trouvé bon, en fait. Il avait même fait mon top 20 cette année-là. Mais il y avait quand même certains trucs qui m'ont agacé. Puis ça s'est comme un peu reconfirmé dans 12 Years a Slave. Fait que globalement, je vais vous le dire d'entrée de jeu, le film, moi, il m'a pas impressionné plus qu'il faut. Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire un peu aussi ce que c'est, en fait, 12 Years a Slave. C'est l'histoire de Salomon, quelque chose, là. On n'a pas de notes au podcast, hein, c'est tout de mémoire, là, qu'est-ce que vous voulez. Bon, mais c'est l'histoire de Salomon. Puis, lui, c'est un homme libre, c'est un violoniste, donc affranchi, même une certaine richesse, à ce qu'on croit comprendre. Il est d'un certain milieu, une femme, deux enfants. Et se fait embobiner par deux hommes qui lui proposent un contrat un peu trop beau pour être vrai. Et puis là, on sait pas trop ce qui s'est passé, et il se réveille enchaîné en cargaison vers le sud, carrément. Et puis là, après ça, donc le titre le dit, on passe vraiment le film, on accompagne à travers les années, à travers les saisons qui passent, à travers toutes les durs labeurs et les sévices et tout ça, dans une fresque. Hein, c'est un film de 2h20, une épopée de 2h20. Qui, ultimement, c'est jusqu'à ce qu'il se fasse affranchir. Mais c'est pas un punch, là, mais c'est parce que c'est de savoir comment, en fait. Comment il a réussi à se sauver de sa condition. Parce que c'est pas une prison, c'est une condition. C'est ça qu'il faut dire, en fait, avec l'esclavage. C'est un peu un anti-Django, là, on va se le dire aussi. Parce que, tu sais, là où Django Unchained, tu sais, c'est comme on utilise ça un peu pour le cool factor de tout, là, des paysages, du contexte socio-historique. Tarantino, puis c'est très bien, Tarantino...
Le comparer à Django Unchained, c'est comme comparer Nuit et brouillard à Inglourious Basterds?
Ouais, c'est à peu près... Non, mais en fait, je serais surpris, hein, parce que... Je vais y arriver. Mais, donc, 12 Years a Slave, on est dans un cinéma très Spielbergien, au fait, hein. Puis, donc, c'est une épopée d'aventure et tout ça. Dans comment il est filmé, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes plastiques avec Django Unchained. Bon, je vais arrêter de les comparer parce que ça fait vraiment aucun sens de les comparer, là. Mais je vais peut-être y revenir une dernière fois à un moment précis, là. Mais donc, on suit le personnage de Salomon à travers tout ça. Maintenant, première chose qui nous frappe, c'est qui nous frappe les tympans, c'est la musique de Hans Zimmer. Moi, Hans Zimmer, vraiment, plus ça va, puis plus j'ai de la difficulté. Je sais qu'il y a ses fans, je sais qu'il y a son style, mais...
Ben, son style, c'est CTRL-C, CTRL-V. Ouais, c'est pas mal ça, là, c'est
mais,
comme...
Mais oui, exactement, mais on dirait que dans un film d'action...
On parle de qui, là?
De Hans Zimmer?
Ah, OK.
C'est John Williams?
OK, non, c'est beau.
Non, Hans Zimmer, on parle bien de Hans Zimmer. Puis là, vraiment, le film, il ouvre une belle séquence, une espèce de séquence pré-titre, là, qui met juste un peu le ton du film et tout ça. Puis là, après ça, t'as une espèce de... Tu sais, je l'ai écouté avec mon frère qui est musicien, puis là, t'as la musique d'Hans Zimmer qui commence, puis c'est la même progression de strings, là, les mêmes accords qu'on entend dans tous les films, puis la même sorte de montée, puis j'étais comme, coudonc, on est-tu dans Superman ou on est dans 12 Years a Slave? Bon, ça, c'est la première... Ça a été le premier agent irritant. Qui est vraiment pas si pire parce que, au fait, la musique d'Hans Zimmer n'est quand même pas utilisée mur à mur, loin de là. Puis le film, ce qu'il fait de façon très bien, c'est d'utiliser les chants. Les chants dans les chants, là, sans faire de mauvais jeu de mots, mais tu sais, comme quand par exemple les esclaves ils ramassent le coton, ben ils vont pour se remonter le moral, ils vont chanter. Puis de là est née toute la culture de la musique gospel aux États-Unis. Hein. Donc il y a vraiment des très belles séquences, une séquence entre autres de funérailles où tous les gens chantent. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Ça, c'est, l'émotion passe par là. Donc, ce qui est à l'intérieur de la diégèse du film, à l'intérieur de la réalité du film, ça marche très bien. Tout le froufrou Hans Zimmerien Dragon-esque, ça passe un peu moins pour moi.
Donc tu nous dis en gros que c'est Django Unchained rencontre les Misérables.
Non, je dis plus rien, moi, je dis plus rien. Autre point, donc, on est vraiment... Moi, ça m'a étonné parce que Steve McQueen, Hunger, il y avait quand même beaucoup d'expérimentation plastique. Hein. On pense notamment au fameux plan séquence statique de comme 12 minutes en plein milieu du film. Puis dans Shame, il y a quand même une volonté de... C'est un film d'auteur, Shame, aussi. On peut le qualifier selon ces termes-là.
Ouais.
Mais 12 Years a Slave, on est vraiment dans un cinéma Spielbergien, comme je disais, d'aventure, ce qui n'est pas mauvais. Par contre, j'ai trouvé que sa mise en scène était étonnamment molle. C'est un peu un problème parce que on dirait qu'il a juste misé sur l'horreur de ce qui est présenté à l'écran. Puis c'est très horrifiant, effectivement, parce qu'il y a des séquences assez insoutenables, des séquences où les gens se font fouetter. Puis c'est difficile. C'est un film difficile. C'est un film qu'on peut pas critiquer de par son traitement de son sujet, parce que c'est traité de façon respectueuse, avec un souci d'authenticité. Donc ça va. Par contre, la mise en scène, j'ai vraiment pas plus de qualificatif que de dire que je l'ai trouvé molle, en fait. J'ai pas trouvé que ça accompagnait ces horreurs-là avec l'emphase qu'il fallait. Puis si tu veux faire un anti-emphase, comme mettons Michael Haneke ferait, par exemple, des fois ça peut être ça qui est puissant aussi. Tu sais, ce que je veux dire, c'est pas juste de mettre du Hans Zimmer pour rendre ça puissant. Même que des fois, ça peut être la retenue ou... Tu sais, vois-tu, il peut avoir une balance d'un bord ou de l'autre, mais au centre, c'est mou. C'est juste ça.
Un certain académisme, un peu. Là.
Un certain académisme, peut-être trop.
Puis, par rapport, mettons, justement, à Lincoln, l'an passé, de Spielberg, justement.
Ben, ouais, peut-être un peu. Puis Lincoln avait été très acclamé aussi, tu sais, comme des critiques américains. Donc, je suis quand même curieux, peut-être, de comparer les critiques internationales par rapport à 12 Years a Slave. Et versus les critiques américaines. Parce que, tu sais, c'est un film qui, de par son sujet, c'est difficile d'être contre le film. Puis ça, on en avait déjà parlé pour d'autres films avec des sujets un peu délicats, mais ça fait pas un bon film. Tu sais, c'est pas ce que... Un film qui traite de façon respectueuse de... Ou je peux revenir sur Catimini, par exemple. Catimini, ça parle de... Au Québec, ça parle de... Bon, tu sais, la DPJ, puis les enfants, puis dans les familles d'accueil. Puis on fait une critique de tout ça. Puis là, si on est contre le film, ben là, on est comme « Ah non, mais là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, t'as pas de cœur, il y a vraiment des affaires comme ça qui sont horribles, qui se passent dans la vraie vie.
Ouais. »
Oui, peut-être.
Mais ou un film sur des handicapés mentaux, mettons.
Bon, c'est ça. C'est un peu ça que t'avais sorti sur Gabriel aussi. Ben, c'est un peu cette carte-là que je vais sortir sur 12 Years a Slave aussi. T'sais. Je me demande vraiment, de façon très... Tu sais, j'ai aimé le film, hein. C'est fou parce que là, je focus sur les points que j'ai moins aimés, mais après ça, je peux même... tout contrebalancé avec plein de points qui vont super bien, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être effectivement surestimé de par son sujet et de par son traitement, de par un traitement respectueux de son sujet. Tu sais.
J'aimerais ça que tu me parles un peu des performances d'acteurs. Ouais. Je sais que Steve McQueen il est très bon directeur d'acteur.
Oui, il a une belle brochette, puis il a surtout une très bonne performance d'une comédienne qui en est à sa première apparition dans un film majeur. Je sais pas son nom, c'est un nom... C'est un nom probablement afro-américain, là. Qui joue l'esclave préféré et donc l'esclave un peu le mouton noir du personnage de Michael Fassbender, qui joue lui un traitant d'esclave vraiment brutal et difficile et épeurant aussi. Épeurant parce qu'il est réaliste, au fait. On y croit vraiment, ce personnage-là. Contrairement, encore une fois, dans Inglourious Basterds, le personnage de Leonardo DiCaprio, il est le fun. C'est une caricature. C'est un méchant qu'on aime aimer ou qu'on aime détester, mais il n'existe pas, ce personnage-là. T'sais. Alors que Michael Fassbender est épeurant du fait qu'on peut très facilement comprendre dans la réalité, aussi dans ce mode de pensée-là global, comment une personne comme ça existe. Et donc, c'est terrifiant. Et elle qui fait justement l'esclave femme qui se fait violer par ce gars-là, qui se fait humilier par ce gars-là, tout ça, elle livre une performance vraiment extraordinaire. La performance centrale de Chiwetel Ejiofor, c'est bien. Par contre, là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un manque de caractérisation parce que, en fait, c'est que, pour la simple et bonne raison, que le personnage est toujours en réaction. Tu sais, il se fait trimballer d'une place à l'autre, il se passe ça, donc il réagit comme ça. Tu sais, le drame, je me rends compte, moi, au fil de mes visionnements de ma vie, que je préfère souvent les films où le drame est généré à même les personnages, au lieu des films où on est juste en réaction. Tu sais, comme mettons dans The Hobbit, ben, je sais que c'est pas la même vocation, mais dans The Hobbit, ah, il y a des golems de pierre qui arrivent, ben, il faut se tasser, tu sais. Ça marche parce que c'est un film d'aventure. Mais j'ai comme peur que dans 12 Years a Slave, c'est un peu l'équivalent, tu sais. Ah, il se passe telle affaire, fait que t'as Chiwetel Ejiofor, son personnage de Solomon Northup, qui réagit d'une telle façon, qui se sauve, qui vient, qui part, puis il est bardassé tout bord, tout côté. Si bien qu'au final, on n'est pas vraiment avec lui tant que ça. C'est étonnant parce que c'est un film quand même de 2h20 qui s'attarde sur lui. On a très peu aussi de moments avec sa femme et ses enfants, et quand ils sont là, ils sont là de façon très abrégée pour que rapidement on comprenne qu'il aime sa femme, qu'il aime ses enfants, qu'il a une belle dynamique. Tu sais, le classique, parce qu'après ça, il va tout perdre. Fait qu'on veut que le spectateur comprenne ce qu'il perd. Mais c'est pas avec une ou deux scènes garochées dans le début du film, tu sais, que ça nous fait ressentir quelque chose. Puis on n'a pas assez de moments, peut-être, où on comprend... T'sais, bon, oui, comme par exemple, il grave sur... Il y a un moment, c'est un détail, mais je vais le mentionner, il y a un moment où il grave, par exemple, le nom de sa famille sur son violon. Ça, c'est très bien, c'est un beau détail, parce que ça nous rappelle que lui s'en rappelle, puis qu'il faut quasiment qu'il l'écrive pour s'en rappeler. Mais là, il joue l'illettré, lui... Une de ses façons de survivre, un de ses mécanismes de défense, c'est de jamais montrer qu'il est lettré, qu'il sait lire, qu'il sait écrire. Puis justement, donc, il écrit comme ça en cachette pour lui. Mais ça, c'est un détail, mais c'est un moment qui est fort parce que ça nous ouvre une porte sur comment il pense, tu sais. Puis tout à coup, on peut avoir un élément visuel qui nous montre que, ah oui, il s'ennuie d'eux. Mais il y en a comme pas assez des moments comme ça, tu sais. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas suffisamment, à mon avis. Les performances, c'est quand même une brochette d'acteurs. Hein. Il y a même Brad Pitt, il y a bon, Fassbender, il y a Paul Dano, dans un rôle qui rappelle un peu aussi son There Will Be Blood, un peu le même genre d'énergie, ça fait drôle.
Il y a aussi le duo de Beast of the Staten Island, en fait, qui est dans le film.
Oui, le père, c'est Dwight Henry et Kevin Zale Wallace, ouais. Qui sont là. Oui, c'est ça, qui font quand même deux films back-à-back avec... Non, c'est... oui, mais elle a un petit rôle, hein, Kevin Zale, vraiment, on est... Tu sais, elle joue la fille, Kevin Zale Wallace joue la fille de Solomon Northup, mais comme j'ai dit, il y a vraiment quelques scènes. Le début est très rapide avant justement qu'il devienne un esclave. Ça a son bon et son moins bon, parce que c'est ça. Après ça. Donc, c'est ça. C'est un peu gâché en tous les sens, mais c'est un grand film. C'est un film à voir, certainement. Mais...
C'est un grand film ou un film qui voudrait être grand?
Peut-être un peu. Ooh. Peut-être un peu plus ça. Écoute, si ce film-là gagne le score du meilleur film, on est vraiment mieux nanti qu'avec un Argo ou qu'avec un King's Speech.
Okay, okay, okay.
Vraiment, là, je veux dire, si j'avais à ranker sur 10, parce que je me permets d'être critique parce que j'essaie d'être réactionnaire un peu à l'espèce d'encensement universel que le film a. Mais tu sais, pour moi,
c'est un en même temps, c'est pas non plus la faute du film en tant que tel.
Non, c'est sûr. Ben non, c'est sûr. Mais pour moi, c'est un 7 sur 10, par exemple, si j'avais à le ranker, tu sais. Fait que c'est bon, là, c'est un bon film, mais vraiment, je veux dire, il me semble qu'il y en a plein d'autres meilleurs aux États cette année. Donc on verra comment la course aux Oscars se dessine, mais 12 Years a Slave, c'est quand même vraiment, vraiment à voir, allez le voir, puis on s'en reparle.
Parfait. Parlant de course aux Oscars.
Hein?
Il y a un certain réalisateur qui a lui aussi tiré des bonnes performances de ses acteurs.
Ah ouais?
Un réalisateur de chez nous, Jean-Marc Vallée, avec son film Dallas Buyers Club.
Ah, là, autant que je suis sorti, mettons, d'un film d'un 12 Years a Slave, en me disant « Ah ouais, c'était juste ça », entre guillemets, que Dallas Buyers Club, c'est un film bouillant, c'est un film tellement motivant, puis génial. Ça a été fait avec très peu selon les standards américains, là, on s'entend, je veux dire, très peu.
En fait, il a essayé de pas éclairer même ces scènes, ouais. Là, c'est vraiment des scènes non éclairées. C'est quand les acteurs ont commencé à voir les rushs qui ont fait « Ah, finalement, tu sais, qu'est-ce que tu fais? » Parce qu'au début, même les acteurs, ils croyaient pas que de ce qu'il était en train de faire. Là.
C'est fou, pareil. Puis aussi, c'est un film qui m'a épaté parce que d'entrée de jeu, on est dans un registre qui est pas... on est loin d'un crazy... C'est pas un film de montage comme un Café de Flore ou... puis c'est pas un film comme vraiment maniéré comme à la crazy, tout ça. Mm-hmm. Non, on est dans le naturaliste et ça lui fait très bien. Hein. Ça marche vraiment, vraiment bien.
Mais il voulait garder le contrôle aussi parce que, en fait, on l'a eu en entrevue pour le Kino Cabaret.
Ouais.
Puis il nous a parlé justement du processus du film. Moi, je ne l'ai pas encore vu, donc c'est plus sur ses dires, mais il nous a parlé de son expérience sur Young Victoria où les
Ouais.
producteurs ont eu beaucoup, beaucoup à dire sur le film. Il nous disait qu'originalement, le soundtrack, c'était censé être entièrement du Siguros, la musique
Ouais, c'est
originale de
ça. Ouais,
Siguros,
ouais.
puis il n'a pas pu l'obtenir. Les producteurs ne voulaient pas que le film soit aussi edgy. Fait il a dit qu'il est fier du film, mais qu'en même temps, c'est un film qui est devenu un petit peu plus fade que ce qu'il voulait faire au début.
C'est ça,
Fait que je
exact. Ouais.
pense que vraiment le but c'était de s'embarquer dans quelque chose avec lequel il pouvait avoir le contrôle qu'il voulait sur le film pour pouvoir faire vraiment ce qu'il voulait là.
Donc, Dallas Buyers Club, c'est avec la musique de Sugar Ross.
Non, 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 justement, puis je l'ai trouvé même vraiment en retenue à ce niveau-là, hein, parce que Jean-Marc Vallée, t'sais, on le sait, il placarde beaucoup ses films de musique. Moi, je trouve qu'il le fait très bien, je trouve que c'est une de ses forces dans son cinéma. Mais dans Dallas Buyers Club, on dirait qu'il le fait pas à outrance, tu sais, c'est utilisé vraiment juste comme quand qu'on en a besoin, quand ça redonne un petit kick, mais il n'y a jamais vraiment de moment plaqué de style de musique ou autre. Non, je l'ai vraiment trouvé en retenue, mais dans le bon sens du terme, parce que l'histoire est tellement puissante et ces comédiens font tellement une job de fou qu'on n'a pas besoin d'en mettre plus, tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'est un exercice de retenue qui est vraiment, vraiment impressionnant. Dans Dallas Buyers Club, on suit le personnage de Matthew McConaughey qui, bon, c'est un personnage vraiment un anti-héros, un bonhomme très misogyne, péquenaud, tu sais, le typique redneck, là, homophobe, qui, justement, apprend qu'il a le sida assez tôt dans le film. Il y a un accident, il se ramasse à l'hôpital, il se réveille de son accident, puis il se fait dire ça. Sa première réaction, c'est complètement incrédule. Il dit, I'm not a fucking faggot, tu sais, qu'est-ce que tu parles, t'as mélangé mon sang, il s'en va en trombe de l'hôpital.
Et ce film d'époque, là.
Ça se passe dans les années 80.
Ouais. À l'époque où le sida devenait un peu.
Ouais, c'est ça, ça devenait. C'était comme la maladie, on en parle, mais ça, il n'y a pas encore eu le. Encore une fois, c'est Freddie Mercury qui est décédé en 91, puis que tu sais, les 2 dernières années de sa vie ont été très, mais
Médiatisé,
très
puis.
médiatisées. Bon, c'est ça, tu sais, sa lutte contre sa maladie a été très médiatisée dans les 2 dernières années de sa vie. Donc là, on est prêt ça, prêt tout ça. Et donc, le film fait bien ou montre bien cette certaine mentalité arriérée de l'époque, tu sais, tous les mythes qui sont autour, comment les gens perçoivent ça, évidemment. Donc, d'entrée de jeu, on comprend que tout le monde pense que c'est une maladie qui est strictement réservée aux homosexuels. Or, on le sait, tout le monde le sait que c'est pas le cas, tu sais. Puis là, après ça, même justement, lui aussi, à Mané, il y a un moment où il est tellement incrédule qu'il essaie de se rappeler, puis il va sur Internet, tu sais, comme une espèce d'Internet du temps, ou je sais pas trop, une espèce d'ordinateur artefact. Puis là, il fait des recherches, tu le vois faire des recherches sur la maladie, puis là, en tout cas, je vous dirai pas pourquoi, mais là, il pense qu'il sait peut-être de où est-ce que ça peut venir, puis là, il y a comme un moment de réalisation. Ce que le film fait de faire, ce que le film qui, moi, dès le début, c'est que il te prend off guard, comme on dit. C'est pas genre l'émotion, elle monte, elle monte, elle monte, puis elle culmine, puis à la fin du film, t'as ta catharsis, tu pleures, t'as un bon coup, puis c'est fini. Sans crier gare, des fois, moi, les larmes me sont montées, puis ça m'a fessé, là. Des fois, c'est une réplique, un moment, une façon que le personnage va réagir à une nouvelle, une interaction, qui est tellement heartbreaking, qui est tellement vrai, que tout à coup, t'es comme. Puis il y a même de l'humour, le film est assez rythmé, tout ça. Puis d'un coup, des fois, tu bascules complètement dans quelque chose de tragique ou dans quelque chose de triste ou dans quelque chose de. Donc, c'est comme si t'es. Jean-Marc Vallée, il est complètement sur ta jauge à vif d'émotion. Puis il tourne la roulette comme il veut, tu sais. Il veut te faire rire, tu ris, puis tu ris de bon cœur parce qu'il y a des moments où ça fait du bien. Quand tu veux que ce soit, tu sais, il y a comme un peu d'action, il y a un moment où il fait passer ses drogues illégales, parce que l'histoire, bon, très, en gros, grosso modo, là, c'est justement Matthew McConaughey, il apprend qu'il a le cancer, et il se fait dire qu'il a seulement 30 jours à vivre.
Le cancer
Et
ou le
puis,
sida?
voyons, le sida, merci Paul. Il apprend qu'il a le sida, il apprend que ses jours sont comptés. Puis là, lui, justement, il s'encoquine avec un gars de l'hôpital, il réussit à avoir des drogues un peu de façon illégale. Puis finalement, en tout cas, il rencontre le personnage de Jared Leto, qui est un transsexuel qui a un peu une espèce de petit cartel de drogues qui sont pas encore légalisées aux États-Unis, mais qui sont, par exemple, au Mexique ou en Europe, qui sont légalisées, puis qui aideraient la réhabilitation des patients sidérés. Puis là, lui, il voit une opportunité, encore une fois, hein, très American Dream, le gars. Il voit l'opportunité de s'enrichir. Mais en fait, c'est qu'il s'enrichit sur des bonnes affaires parce que là, il se part un buyer's club. Puis comme c'est illégal, comme la loi dit que c'est illégal de vendre de la drogue, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des memberships. Donc, par exemple, il dit pour 30$ par mois, tu peux te prendre tous les suppléments, puis toutes les affaires, puis toutes les dopes que j'ai, comme tu veux, tu sais. Mmh. Fait que ça a été un peu sa façon ça, de contourner, là, c'est un peu le loophole dans la loi, ça a été ça. Par contre, le film, bon, il a été rattrapé par les législations, puis le film est très critique sur un engorgement du système américain pour légaliser les drogues, parce que, tu sais, au final, ces gens-là, ce sont des tests, puis c'est un lobby tellement fort pharmaceutique qui fait ouais. en sorte que c'est telle drogue qui va passer, alors que tel ou supplément ou des trucs très légaux t'aide énormément à te rétablir. Donc, c'est comme si le film met de l'avant tout ce côté-là, la facette macro, comme quoi les vies humaines sont jouées par des cartes de businessmen, tu sais.
Mm-hmm.
Puis c'est bien fait. Petit bémol, Jennifer Garner, là, vous l'aimez-vous, vous autres? Jennifer Garner.
Elle est crâne.
Ben, elle est fan un peu. Moi, elle m'a pas marqué dans aucun rôle, en fait, là.
C'est pas elle qui joue à la prostituée à un moment donné dans Catch Me If You Can. Il me semble qu'elle était bonne là-dedans. Elle a un rôle de comme 5 minutes. Là.
Il me semble qu'elle est un peu comme le dude qui joue dans Jeremy Renner, là, c'est ça?
Ouais.
C'est un peu comme, ouais. C'est une personne passe-partout qui fait bien la job, mais qui est jamais comme, t'sais, marquant, tu sais.
Mais vraiment, moi je trouve là que c'est... Tu vois là la différence, ok? Il y a comme des scènes avec elle, puis à l'hôpital, parce que, comme je te dis, il y a un peu le point de vue macro, hôpital, pharmacie, tout ça. Bon. Puis c'est elle qui lead ça, parce qu'elle, c'est la docteure du personnage principal et du personnage de Jared Leto, puis elle devient un peu une espèce de vigilante, parce qu'elle se rend compte que les pharmacies, que les compagnies pharmaceutiques, puis que la FDA, c'est la Federal Drug Association, tire des ficelles au détriment de la santé de ses patients. Bon, bref, fait qu'il y a comme un peu un side story sur elle, puis comment qu'elle évolue à travers tout ça. Mais c'est vraiment faible, j'ai trouvé. C'est complètement pas à la hauteur. D'un côté, t'as des scènes avec des comédiens qui ont des rôles hyper juteux, des personnages, my God. Hey, Jared Leto, là, son introduction, là, c'est comme... Ça détonne à l'écran, je veux dire. Il est plus grand que nature. Tout est plus grand que nature. Puis en même temps, tu y crois, c'est beau, c'est fort, ça marche. Puis t'as elle à l'hôpital. Ça fait un peu Grey's Anatomy. Puis elle se promène, là, puis elle... Elle parle à du monde, puis ça marche juste pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment plus faible, à mon avis. Par contre, c'est vraiment pas une grosse proportion dans le film, fait que ça ampute vraiment pas mon appréciation globale du film. Encore, vraiment, là, les comédiens, irréprochables. C'est un putain de film, là, on va se le dire, là. Puis ça fait réfléchir, ça... Ouf, that's a good one, là. Ça, c'est un des bons films américains cette année, facilement, facilement pour moi.
Lui aussi, qui est d'ailleurs fortement pressenti dans la course aux Oscars, et notamment Matthew McConaughey, que je pense... Ben oui. Est-ce qu'on a déjà eu un exemple dans l'histoire du cinéma d'un acteur qui s'est autant racheté en l'espace de 2 ans? Et d'ailleurs,
Anataway, peut-être, ouais. Peut-être. Mais encore là, c'est pas aussi drastique. Ouais. Ouais, c'est ça.
Il est aussi dans le prochain Scorsese, Wolf of Wall Street.
Ouais.
Selon moi, il vole la vedette dans la bande-annonce.
Ouais.
Donc, Dallas Buyers Club, qui est toujours à l'affiche de Jean-Marc Vallée.
Allez le voir, c'est vraiment... C'est un des films à battre cette année.
Et on encourage aussi, d'une certaine façon, un réalisateur du Québec. Donc,
oui.
Voilà. Sinon, Rémi, qu'est-ce qui sortait en DVD cette semaine? Ce serait quoi tes suggestions?
Il y a The World's End qui sort. Donc, si vous l'avez manqué en salle, c'est le temps de le rattraper, la fin de la trilogie de Edgar Wright. Il y a une nouvelle édition de Nosferatu, 2 disques. Je sais pas si ça vaut la peine, mais moi, j'ai tellement une édition de marde chez nous du film. Tu sais, c'est comme une compile avec 3 films, là, genre domaine ouais. public. Puis, sur ma version, en plus, j'en ai déjà parlé au podcast, mais ils ont collé de la musique rock qui n'a pas de sens. Là. Ouais, en tout cas, là, il y a une édition 2 disques Blu-ray. Là, ça doit être quand même... de shit, là. Puis ma dernière sélection, c'est un film que je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour à détester ce film-là. Je parle de Hot Dog qui sort donc.
Le Punching Bag québécois, là. Ouais.
Le Punching Bag québécois. Je pense que, tu sais, l'an passé, il fallait que je me tape L'Empire Bossé puis Mars et Avril. Cette année, il va falloir que je me tape Hot Dog. Ouais. Donc, on s'en parlera dans un autre podcast. On a déjà eu votre critique.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc, ça sort en DVD.
Moi, j'ai pas vu en fait, c'est Pascal.
Ah, c'est Pascal, c'est ça qui a été
blasté. Il y a un criminel manque de timing comique dans ce film-là. Là. Les blagues, ça tombe à plat. Là. Puis c'est pas parce que tu mets plus de blagues que c'est plus drôle. C'est pas cumulatif des blagues, tu sais. T'es mieux d'avoir une blague bonne que 10 blagues pas bonnes, tu sais, dans le même laps de temps. Les hot dogs, ils ont pas l'air d'avoir compris ce raisonnement-là.
Donc, pour Rachid Baldori qui nous écoute. sinon, en salle, Pascal, qu'est-ce qui sort vendredi? C'est quoi tes suggestions?
Bon, il y a Hunger Games, mais moi, j'ai pas vu le premier. Puis, je verrai probablement pas le deuxième avant d'avoir vu le premier.
Ouais.
Par contre, les critiques sont assez bonnes.
Mais,
on verra.
Ouais. Mais Rémi.
Oui.
Tu te rappelles, il y a un an, quand j'étais vraiment mindé pour voir Hunger Games, comment je pensais que ça avait l'air vraiment bon.
Ouais, puis c'est moi qui suis allé taper en premier.
Ben, on était pas ensemble les deux, non?
Ah, je sais pas.
Il me semble qu'on l'a vu ensemble les deux. Mais ouais, je me rappelle que... Tu sais, ça fait juste un an, ce film-là, ou un an et demi peut-être. Puis on dirait que je m'en rappelle plus du tout. T'sais. On dirait que je suis comme... J'ai pas du tout de buzz pour voir le deuxième.
Ouais. Ouf. En tout cas... Hey, y a d'autres films. Il y a... bon... Je sais que c'est pas nouveau, mais je vais quand même le mentionner parce que là, il sort ailleurs. Parce que, tu sais, oui, à Montréal, il était là depuis début novembre, mais là, 22 novembre, c'est l'officiel, c'est la grande sortie, en fait, c'est la sortie plus large de Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. Fait que je le mentionne, si jamais il était pas dans les cinémas proches de chez vous, là, il est là. Donc, ça va de pair avec ma critique élogieuse. Allez le voir, c'est super. Je vais le mentionner parce que, bon, il y a Delivery Man de Ken Scott avec Vince Vaughn. Qui est le remake pratiquement.
Hey, avez-vous vu ce que je vous ai envoyé, les boys? J'ai pas reçu de commentaire là.
Non, je sais
mais,
pas.
Qu'est-ce que mais Starbucks a été remaké cette année trois fois.
Ouais.
Ça fait pas de sens. Puis vous regardez les bandes annonces, donc il y a Deliveryman aux États-Unis par Ken Scott, produit par André Rouleau, donc la même team. Tu regardes le trailer, puis c'est shot par shot la même chose.
C'est plan par plan, ouais.
Il y a un film en France qui s'appelle Fonzie. Donc c'est un remake encore de Starbucks avec des minces changements. T'sais, au lieu de travailler dans une boucherie, travailler dans une poissonnerie, mais tu regardes le trailer là, puis c'est la même chose. Puis il y en a un troisième, c'est une version hindoue. Un film de Bollywood. Donc il y a trois films qui remake Starbucks, trois remakes cette année d'un film. Je comprends pas. Puis vous regardez là, vraiment, vous regardez les quatre trailers. Puis dans les quatre trailers, vous voyez la scène où le père, il fait... dans le fond, tu sais, Patrick Huard disait comment je fais pour me... Comment quelqu'un de normal fait pour se sortir d'une situation comme ça? Puis le père répond, je me sais plus trop quoi. Là, c'est un petit gag, là. Mais le gag lui-même est dans les quatre bandes-annonces. C'est, en tout cas, moi, ça fait exploser ma tête de voir ça, là.
Mais t'as peur, t'as peur, Rémi.
Tu vas pouvoir aller le voir, le film, vendredi.
Mais t'as peur, Rémi. Là, t'es après me dire qu'un remake reprend les mêmes scènes du film.
Hey, non, original. mais c'est... Non, mais ça fait pas de sens, là. C'est parce que... En tout cas, trois remakes d'une année, là. En tout cas, moi, je capote, là.
Ouais. Ben, en même temps, bon. Je me dis... pas qu'aucune de ces versions-là m'intéresse. J'ai déjà vu l'original, mais... Si ça peut encourager les producteurs, les cinéastes québécois...
Ouais, par la bande, ça peut être bien, mais effectivement, moi, je suis dans le côté de Rémi, c'est du gros n'importe quoi à ce niveau-là.
Ben, c'est comme, comme une fille, ça fait le tour du monde, et puis...
Ouais, c'est sûr.
C'est nous qui s'en sommes... ou peut-être Guy Lepage uniquement, mais bon, qui en sommes gagnants, donc bon. Bref.
Puis finalement, il y a Gare du Nord de Claire Simon qui était au FNC, qui avait eu des très bonnes critiques. Moi, j'en ai entendu parler de certains de mes amis qui l'ont vu, qui ont beaucoup apprécié. Donc, je vais le mentionner, le film français de Claire Simon qui sort. Il y a aussi La voleuse de livres, là, tant qu'à faire, il en restait juste un. La voleuse de livres avec Sophie Nélis, qui était la petite de Monsieur Lazare, qui sort aussi ce vendredi. Donc, c'est ça.
Parfait. Moi, la suggestion de la semaine, en fait, c'est le 27 novembre. C'est l'ouverture des sommets d'animation à la Cinémathèque québécoise. Et dès 19h30, en fait, c'est le film Le Congrès d'Harry Folman qui ouvre les sommets d'animation. Harry Folman, qu'on a connu avec Valse avec Bachir, Le Congrès qui était à Cannes, qui a eu des critiques un peu divisées, mais quand même. J'ai très, très hâte de voir ce film-là. Selon moi, l'un des cinéastes les plus importants dans l'animation en ce moment. Et en bonne annonce, tiens, on va aller découvrir Gare du Nord de Claire Simon. Je pense pas que tout le monde vraiment est au courant de ce film-là.
Donc, Tard 2, non? Ça tente pas?
Ouais, non, je me suis fait assez ramasser la semaine passée. Donc, donc on va aller voir le film de... On va aller entendre, dis-je bien, le film de Claire Simon. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landreau, j'ai été avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Bonjour, j'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement.
Profession ?
Prof d'histoire.
Moi je fais de la socio, je fais ma thèse ici.
C'est quoi votre sujet de thèse ?
C'est la gare.
Gare du Nord ?
Bah ici on est nulle part, c'est comme une place de village. Et si ici c'était un village, bah ce serait le monde.
Ça se trouve, je me retrouvais comme Louis Sarbora à l'Alysée.
Il est venu à Paris pour finir ses études de droit international.
Mais c'est ta thèse qui compte.
Elle a disparu ici. T'as dû la croiser, non ? Ça te dit quelque chose ?
C'est qui, c'est votre fille ?
Tu me fais rêver. Oh, 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 jolie poupée.
C'est un sondage pour la SNCF.
Vous avez combien de trous du cul ?
Vous savez quoi, non ? Vous cherchez toujours votre fille ?
Mec facile avec fille facile. Les jeunes viennent ici pour faire l'amour.
Pour l'amour ?
Tu reviens quand ?
Demain.
Je suis amoureuse comme si j'avais 15 ans.